France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je suis Vincent Dumestre. Je suis né le 5 mai 1968 à Saint-Germain-en-Laye. Je suis luthiste et chef d'orchestre.
Guarda che si vede.
Buon dì, signore. Anche tu qua?
Come mai sei già sveglio?
Vincent Dumestre, vous allez faire vos classes et apprendre votre métier sur scène, au contact de différents ensembles. On pense à Jordi Savall, on pense à Philippe Pierlot, aussi feu Jean-Claude Malgloire. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, de ces expériences-là, avant de fonder votre propre ensemble ?
C'est vrai que j'en retiens tout, puisque ça a été, quelque part, ma source presque unique d'apprentissage. Que ce soit avec Jean-Claude, avec la maîtrise de Versailles, que ce soit avec Jordi, et beaucoup avec Philippe Pierlot, puisque quand je suis devenu professionnel, donc quand j'avais 23, 24 ans, j'avais énormément de travail en Belgique, du coup je suis allé vivre là-bas, et j'ai vécu même chez Philippe Pierlot. Quelque part, c'est retourner aux sources de cette musique, c'est-à-dire le rapport au maître, qui est une chose qu'on perd aujourd'hui et qu'on peut retrouver peut-être grâce au disque. Il y a quelque chose dans le disque qui permet ça, je trouve. C'est-à-dire que pour moi, le disque est un outil formidable, un outil pédagogique extraordinaire qui permet d'être finalement très proche d'un musicien. Et donc moi, j'ai eu cette chance d'apprendre au contact de musiciens. Et encore une fois, beaucoup avec Philippe Pierlot qui m'a entraîné partout et dans tous les répertoires. C'est-à-dire qu'on faisait des récitals ensemble avec le Richard Carr Consort, avec le consort de viol, avec des grands effectifs. On avait été dirigé par Peter Phillips. Enfin, j'ai vraiment été nourri grâce à lui de cette manière-là qui me semble, pour ce métier de soliste et d'accompagnateur, capital. La musique baroque est une musique qui n'est pas pure. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y projeter de défini absolument. Rien n'est jamais certain dans ce répertoire. Elle est impure dans le sens où sa beauté finalement se révèle dans la contextualisation et dans l'association avec alors d'autres arts ou d'autres paramètres. Ça peut être l'association avec une acoustique. C'est pour ça qu'un tempo n'est jamais un tempo défini. C'est pour ça qu'à l'époque baroque, on ne peut pas mettre une noire égale 150. Ça n'a pas de sens parce que le lieu le redéfinit. Ou plus encore, l'effectif va le redéfinir. C'est-à-dire qu'on va pas jouer à la même, si on parle de tempo, à la même vitesse, une ouverture si on est 18, donc quasiment à un par partie, ce qui se faisait, ou si on est 45, ce qui est l'orchestre, si on parle d'un orchestre français, l'orchestre lulliste, tout à fait possible. Pour prendre un autre exemple, que je trouve extraordinaire, c'est qu'on connaît l'air de cour. C'est cette petite forme délicate, intime, écrite toujours en deux parties, A et B, avec les reprises, etc. L'air de cour, il était joué bien sûr comme ça, mais en fait on oublie qu'il était joué également de manière polyphonique, donc avec quatre ou cinq chanteurs. C'était exactement la même musique. Il était joué aussi avec des instruments parfois, qui accompagnaient et qui étoffaient la couleur de l'effectif. Et il était parfois joué dans des grandes occasions, dans les ballets par exemple, avec 90 musiciens. Donc ce petit air de cour intime et avec son tempo, ses ornements, etc., devient une pièce absolument majestueuse qui va remplir la salle de bal du Palais du Louvre et qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a écouté quand on le connaissait avec juste un chanteur. Et pourtant, c'est strictement la même musique.
L'interpréter, ça demande la connaissance d'un contexte, mais aussi l'intimité des gens avec lesquels on la partage. Si on joue un trio de Schubert, pour parler peut-être plus simplement, on a peut-être davantage de choses sur la partition qu'il faut qu'on ne peut pas se perdre totalement.
À partir du romantisme, on sacralise la musique. Donc on fait de la partition un objet, encore une fois, pur, hein, un objet idéal en tout cas. Un objet idéal avec ses formes, ses structures, ses nuances qui sont notées par le compositeur, son tempo, parfois même aussi imposé par le compositeur. Et finalement, dans la musique ancienne, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire que non seulement il nous manque ces éléments-là d'interprétation, d'orchestration, on ne sait pas qui jouait ces parties. Aujourd'hui encore, on se pose des questions sur, dans certains répertoires, par exemple dans la musique anglaise, est-ce que c'est un contre-ténor qu'on doit utiliser pour un air dans une plainte de Purcell, ou est-ce que c'est pas plutôt un haut-contre? Est-ce que le diapason n'était pas finalement suffisamment bas pour qu'un ténor léger puisse, de sa voix de poitrine, chanter un air qui, depuis Alfred Deller, a été associé à la voix de contre-ténor? Et est-ce que c'est pas une invention du XXe siècle que la voix de contre-ténor? Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, je les aime. et je travaille avec eux, et j'adore cette voix. Mais voilà, ça pose toutes ces questions. Et à la différence, effectivement, peut-être, du trio Schubert, les sonates en trio, dans la musique ancienne, en tout cas la musique vocale, elles demandent tout un travail au préalable. On ne peut pas l'interpréter telle qu'elle. Et si elle a une virtuosité, quelque part, c'est souvent une virtuosité du cœur et une virtuosité aussi de la connaissance, c'est-à-dire une virtuosité stylistique. On ne peut pas la partager sans ce matériau-là.
Finalement, il faut être à la fois aussi humble que démurge, quoi, par rapport à cette musique ancienne.
C'est vrai. Moi, j'ai toujours prôné le doute pour la musique. C'est-à-dire que c'est en doutant d'une partition qu'on la laisse résister à nos habitudes. Parce que sinon, on va faire un copier-coller des propositions qu'ont fait les générations avant nous. Or, c'est pas l'objectif. L'objectif, s'il y en a un, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible du compositeur, sachant que la restitution historique n'existe pas, elle n'existera jamais. C'est toujours la réinvention historique.
Musique. just hold him and love. It's all chance, it's all chance, it's all chance. Must obey. Then with the flowers.
Les grands entretiens de Vincent Dumestre, France Musique.
Après toutes ces expériences à l'intérieur de l'orchestre ou dans des formes plus petites auprès d'aînés vénérables, vous allez décider de fonder votre propre ensemble. On est à la fin des années 90. Le poème harmonique, rien que dans son nom, on entend aussi ce qui vous a construit. L'harmonie, l'amour du verbe. Vous construisez cet ensemble pour pouvoir être autonome.
Donc il s'est passé quasiment 10 ans à partir du moment où j'ai commencé la musique ancienne. Et pendant 10 ans, j'ai appris donc au contact de très grands musiciens. On parlait de Jordi, qui est un musicien fabuleux. Je me rappelle parce que j'avais un jour dormi chez lui et j'avais été réveillé à 6h du matin par une musique. Et en fait, c'était lui, il m'avait expliqué ensuite, au petit déjeuner. Et il m'a dit, mais non, mais moi je me lève toujours à 5h30, parce que entre 5h30 et 8h, c'est le seul moment où je suis à peu près tranquille pour travailler. Voilà, il y a eu des rencontres extraordinaires, mais il y a eu aussi, au bout de quelques années, la frustration de ne pas pouvoir, non pas m'exprimer, parce que ça, j'avais un grand plaisir à jouer avec ces musiciens-là, mais pouvoir mettre à jour des partitions que j'avais trouvées. C'était des musiques italiennes, c'était des musiques françaises, c'était par le biais de Jean Lyonnais dans nos pérégrinations dans les bibliothèques, c'était moi aussi comme ça dans mon répertoire aussi où j'avais trouvé des choses étonnantes. C'était Belero Fonte Castaldi par exemple, qui est un musicien complètement atypique là pour le coup, un être libre, un libre penseur, un poète. C'était pas un répertoire que je pouvais défendre avec d'autres interprètes. Donc oui, à la fin, dans les années 96, 17, je commence à réfléchir à créer un ensemble, et ce qui s'est mis en place en 97 puis 98. À l'époque, on travaillait beaucoup avec Guillemette Laurence. Et donc je lui ai proposé, est-ce que tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble? J'ai un répertoire extraordinaire à défendre, il me semble. Et d'ailleurs, la première répétition était très drôle parce que donc on a répété ensemble cette musique qui n'entrait pas dans les codes traditionnels du répertoire baroque. Et le soir même, j'ai eu sur mon répondeur un message de Guillemette qui m'a dit, écoute, je suis vraiment désolé Vincent, mais je le sens pas trop, je crois pas que je pourrais, peut-être faudrait que tu demandes à quelqu'un d'autre, parce que je comprends pas très bien, et puis ça, voilà. Et alors là, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé de convaincre Guillemette de la beauté de cette musique, mais aussi de la résistance naturelle que peut avoir une partition quand on ne connaît pas forcément tous les codes, après tout, et qu'il faut, voilà, se défaire de nos habitudes et peut-être aller chercher ailleurs, etc. Et bon, j'ai réussi à la convaincre. On a fait une deuxième, une troisième et une dizaine de répétitions, de moments de travail comme ça. Et puis finalement, on a trouvé cette musique. Enfin, on l'a rencontrée vraiment. Et elle était très heureuse d'avoir fait ça avec Castaldi, qui était notre premier disque, et puis Domenico Belli, qui était le second, où on a eu beaucoup de succès.
Oh,
C'est aussi le moment où j'ai rencontré Jean-Paul Combet, qui à l'époque travaillait pour Astréovidis. J'avais fait plusieurs disques pour Astré, donc pour lui. Je lui avais proposé d'enregistrer cette musique. Et en fait, un jour, il m'a dit, écoute, je suis désolé, on ne pourra pas, parce que je quitte Astréovidis. Voilà. C'est catastrophique pour moi, parce que j'avais déjà engagé des musiciens. Enfin bon. Et il dit, non, mais il y a peut-être une autre solution, parce que j'ai envie de créer mon propre label. Et donc, c'est peut-être le moment de démarrer quelque chose voilà, entre ton ensemble et puis un nouveau label qui va s'appeler Alpha. J'avais un petit peu peur, mais bien sûr, lançons-nous dans l'aventure. Et voilà, donc c'était une aventure, hein, pour le coup. Aventure presque familiale, parce qu'il fallait mettre les mains à la pâte. Ensemble, on cherchait la typographie pour la présentation. Enfin, tout était à faire. Et lui avait une grande expérience, évidemment, de directeur de festival, Arc-la-Bataille en Normandie, et de directeur artistique de disques. Mais c'était quand même tout nouveau. Les tout premiers disques étaient d'ailleurs tous du poème, ou le 5-6 premiers en tout cas, si je me rappelle bien. Mais il y a eu ce hasard des rencontres et ce hasard des intérêts, je dirais, lui pour un répertoire totalement différent, qui exprimait autre chose, et moi qui avais cette espèce de passion pour le XVIIe siècle, et pour mettre en valeur ces auteurs qu'on a oubliés parce que l'histoire oublie toujours, parce que l'histoire ne se rappelle que d'un Monteverdi pour... Et d'un Cavalli, peut-être, quand il s'agit du grand public, pour le XVIIe siècle, d'un Charpentier, d'un Lully pour la France. Voilà, alors que, évidemment, qu'à l'époque, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose dans le sens où ce ne sont pas des personnalités, finalement, pour moi, en tout cas, qui comptent. Ce qui compte, c'est une époque. C'est pas si étonnant que ça qu'aujourd'hui on se rende compte que le couronnement de Poppée, c'est pas Monteverdi, ou en tout cas c'est pas uniquement Monteverdi, ou pas beaucoup Monteverdi, peu importe ça. Les œuvres sont réattribuables à merci, à ces compositeurs. Finalement, dans un moment d'effervescence et d'innovation artistique, ce qui est important, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent, quelles sont les étapes à l'époque qui ont fait qu'on a abouti à la naissance de l'opéra. Pourquoi, par exemple, la troupe de Manelli et Ferrari qui arrive à Venise en 1636-1637 va quasiment chasser des théâtres, les gens de théâtre, pour y mettre de la musique. Ça me semble beaucoup plus important que de savoir si l'auteur est vraiment Monteverdi ou si c'est Cavalli. Et de toute façon, même si c'est très intéressant de savoir si c'est l'un ou l'autre, 4 siècles plus tard, on est dans des phénomènes presque de détail. Nous, pour rappeler que Monteverdi n'est pas le seul et pas le fer de lance. Non, il est un grand compositeur parmi beaucoup d'autres. Donc Cavalli a été redécouvert, mais il y a tous les autres à redécouvrir. Il faut dire aussi que, puisqu'on parle d'opéra, il y a aujourd'hui dans le monde une poignée d'opéras qui se montent. Hein. On monte Didon, on monte un ou deux Händel, le couronnement de Poppée par exemple, monte peut-être un Lully encore, il y a un Attis qui... Bon, et ça, si on le compare aux milliers d'œuvres opératiques qui restent à disposition dans les bibliothèques, je dirais que c'est terrible, c'est terrible.
C'est ce que vous faites au Poème Harmonique. C'est pour ça, ce que vous nous dites, Vincent Dumestre, aussi, que vous avez fondé cet ensemble aujourd'hui. Quand on regarde votre discographie et qu'on se remet un petit peu au premier disque, je me dis que la conversation avec Eugène Green peut avoir un côté de manifeste. Il y a toute la sensualité de Théophile de Viau d'un côté, la musique de Robert de Vizet de l'autre. Est-ce que c'est pas le ferment aussi du poème, tout ça?
C'est très vrai, et c'était conscient d'ailleurs au moment où on s'est rencontré avec Eugène autour de ce projet. Mais la rencontre avec Eugène a été déterminante effectivement dans mon parcours. Elle a commencé un soir de mai, je crois, 97, à la Sorbonne, où je suis allé voir Mithridate de Racine, qu'il mettait en scène et dans lequel il jouait, entièrement à la bougie. Et c'est vrai que ça a été un choc émotionnel très fort, enfin, un choc esthétique. D'abord, cette esthétique baroque qu'il prônait. Ensuite, la parole, c'est-à-dire la prononciation restituée. Cette langue qui, à la première écoute, m'a paru d'abord très éloignée de moi, très exotique, très distante finalement, et au fur et à mesure, justement, cette distance a été intéressante, et je m'en suis très vite rapproché, j'ai compris l'intérêt justement d'avoir une distance, c'est cette distance-là, elle est très positive. Et donc, on s'est pris par la main avec Eugène, très belle amitié. Il m'a demandé à plusieurs reprises de faire la musique de ses films, Le Pont des Arts, Toutes les Nuits d'abord, c'était en 2001, je crois. Alors, dans ses films, il n'y avait quasiment pas de musique, hein, donc c'était pas difficile.
Mais... Le Pont des Arts, c'est Lamento della Ninfa. Alors,
Le Pont des Arts, oui. Non, Toutes les Nuits est un très joli film avec juste une pièce au début et à la fin. Le Pont des Arts, oui, c'est un film aussi autour de la musique et avec le Lamento qui est en pièce majeure et pièce centrale, on va dire. Et puis Le Fils de Joseph, tout récemment, là, qu'on a fait. Donc il y a cette relation, et puis bien sûr tout ce qui m'a appris sur l'esthétique par le biais de la parole baroque, le livre qu'il a écrit, qui est vraiment passionnant, qui donne un peu les fondements en tout cas de sa vision d'une esthétique baroque en partant du démarrage, c'est-à-dire de Rome, de Sainte Thérèse d'Avila en extase, du Bernin, le pourquoi de tout d'un coup cette évolution dans l'esthétique.
Enfin, c'est vraiment, La Sapienza, c'est encore ça.
La Sapienza, c'est vraiment son grand amour pour cette époque, pour ces artistes-là, bien sûr.
Quand tu me vois baiser tes bras, que tu poses nu sur tes draps, bien plus blanc que le linge même, quand tu sens ma brûlante main se pourmener dessus ton sein, tu sens bien, Cloris, que je t'aime.
En 2002-2003, j'avais envie d'aller plus loin dans la recherche de la mise en scène, en tout cas du rapprochement des arts, de la danse, du théâtre. Et j'ai posé la question à Eugène, et il m'a dit « mais moi je suis de toute façon, maintenant je suis parti dans le monde du cinéma ». Et à l'époque je connaissais Benjamin Lazare, qui était son élève, en tout cas pour ce répertoire baroque. Et voilà, du coup c'est comme ça que s'est fait la relation et la collaboration avec Benjamin sur un tout nouveau projet qui était Le Bourgeois Gentilhomme. C'était ça, c'est né à Royaumont avec la générosité de Francis Maréchal et de tous les gens de Royaumont, parce que ça s'est vraiment monté grâce à eux. Puisqu'à l'époque, on n'avait aucun coproducteur, on n'avait rien. C'était tout le monde disait « non mais votre truc, ça ne nous intéresse pas du tout ». Voilà, c'était compliqué. Et, il a fallu vraiment beaucoup de volonté, une économie de bout de chandelle, et un enthousiasme de la part de tout le monde, des acteurs, des comédiens, des danseurs, de Cécile Roussa, de Julien Lubeck, de tous ces gens qui étaient tout jeunes, et Olivier Martin Salvant, qui était le bourgeois gentilhomme, alors qu'il avait 22 ans, qu'un ancien rugbyman, donc qui prenait bien la place du bourgeois dans cette œuvre. Et puis ça a été l'aventure qu'on connaît avec le succès du bourgeois et de cette esthétique aussi, grâce à Benjamin.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Il faut bien étendre un peu la chose.
Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournez à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre.
On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir, me font. Belle marquise, vos beaux yeux, ou bien, vos yeux beaux, d'amour, me font. Belle marquise, mourir, ou bien... Mourir, vos yeux beaux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien, me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise d'amour.
Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure?
Celle que vous avez dite.
C'est sur cet extrait de cette super production du Bourgeois Gentilhomme par Olivier Martin Salvant et Benjamin Lazare avec le poème harmonique en fausse que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Vincent Dumestre. Merci à toute l'équipe, Gilles Blanchard, Thibaut Nassine-Ben, Bernard Laniel et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain, 13h. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.